Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire beaucoup de lectures ce soir et je vous encourage à les noter. Tous ces textes, et vous verrez combien ils sont utiles pour notre croissance spirituelle. Si vous avez lu la parole de Dieu, vous avez vu oui, justement, qu'il y a des vases. Il y a des vases utiles et il y a des vases inutiles. C'est écrit dans la Bible ça, ouais. Il y a des vases utiles, il y a des vases inutiles. Dans la même maison, ils ont le même maître, mais certains sont utiles et d'autres inutiles. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 5, nous voyons une fois de plus la peine de Dieu, la tristesse de Dieu, de ne pas trouver justement cet homme ou cette femme qui pratique la justice. Vous voyez, Michaël, en présentant les chants, rappelait ce texte, « Si le juste tombe, d'accord ?» C'est le juste, mais ce n'est pas le chrétien, c'est le juste. Il y a des chrétiens, ils tombent, est-ce qu'ils se relèvent? Est-ce que tous les chrétiens qui tombent se relèvent? Eh non. Et il faut bien faire la différence entre celui qui pratique la justice et le chrétien de nom. Jérémie chapitre 5, d'ailleurs on le voit dans ce texte. Jérémie chapitre 5, c'est un livre où cet homme souffre beaucoup. Cet homme, il n'a rien vu pour ainsi dire, il n'a presque rien vu. Mais enfin, Dieu lui a parlé. Jérémie, chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, vous vous rendez compte ? S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Vous vous rendez compte ? Dieu connaît la ville de Jérusalem, il connaît Israël, il connaît la France, il connaît tous les pays. Et il sait dans toutes les places, dans toutes les maisons, s'il y a un homme qui pratique la justice. Regardez, verset 2. Même quand ils disent, l'Éternel est vivant, on pourrait mettre, même quand ils chantent, même quand ils prient, l'Éternel est vivant, à la fin du verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Tout à fait à la fin, la dernière phrase, ils refusent de se convertir. Vous voyez, ils n'avaient pas abandonné le culte, ça c'est sûr, mais ils avaient abandonné Dieu. Et c'est une chose que les gens ne comprennent pas bien. Dieu cherche un homme, une femme, une église par lequel il pourra manifester sa grâce, par lequel il pourra retarder le jugement. Car le jugement, il vient, c'est pas la peine d'en parler, on le sait, mais Dieu veut faire grâce, Dieu veut sauver dans nos familles des pécheurs, des gens qui crient à Dieu. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un dans mon bureau, il n'a jamais venu à l'église, il y a quelques jours de cela, il s'est mis à crier à Dieu. Dans sa maison, il s'est jeté à genoux, Dieu l'a entendu. Il lui a répondu, il m'a dit, je ne l'explique même pas. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. J'ai demandé à Dieu, il m'a répondu. Vous voyez que Dieu répond. Dieu répond à la prière. Alors, la prière, c'est ce que Dieu veut. Ma maison sera une maison de prière. Quand Jésus rappelle la prophétie d'Ésaïe, vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Avant de rappeler cette prophétie, vous rappelez ce que Jésus a fait? Il a mis de l'or dans le temple. Lui, le Seigneur, il a dû renverser tout ce qui n'allait pas, chasser les vendeurs de pigeons, etc. Et puis après, et juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Avant, il a mis de l'ordre, il rappelle la prophétie d'Ésaïe, et juste après, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez pas? Alors, je le lis. Matthieu 21. C'est bien, Monsieur Oli m'a vraiment appris ça, moi, à faire attention au contexte, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, pour comprendre que même une prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle correspond à quelque chose. Donc Matthieu 21, si je me trompe, oui, donc verset 12, il chasse les vendeurs, etc., tous ceux qui font des choses dans la maison de Dieu qui n'ont rien à y être, qui n'ont pas à y être, il rappelle la prophétie et il n'a pas changé d'avis. Il veut que sa maison soit une maison de prière. Pourquoi? Parce qu'il veut exaucer. Et mais une fois qu'il y a de l'ordre, qu'est-ce qui se passe au verset 14? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Est-ce qu'il n'aurait pas dû les chasser? Dans la loi, est-ce que les aveugles et les boiteux avaient le droit d'entrer dans le temple? Non, ils n'avaient pas le droit. Mais nous sommes dans la grâce et le Seigneur il veut sauver tous les hommes. Vous voyez, des aveugles, des boiteux, et je pense que des aveugles et des boiteux au niveau de la prière, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Des gens qui ne voient pas les choses, qui boitent continuellement, ils prient un jour, ils ne prient pas pendant deux jours, ils boitent. Alors, Dieu veut guérir, c'est évident, Et je vous rappelle ce verset, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce que Dieu veut, c'est que nos prières soient efficaces. Dieu veut exaucer la prière. Il a institué la prière dans ce seul but de nous exaucer. La prière fervente du juste. Il n'est pas dit la prière. La prière fervente a une grande efficacité. La prière fervente du juste. C'est quoi un juste ? Il y a deux enseignements. Le juste, c'est celui qui a été, bien sûr, justifié. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme sauveur, qu'il demande à Dieu que le sang de Jésus vienne dans sa vie, il est justifié. Jésus-Christ a été fait pour nous justification. Il est notre justice. Vous êtes d'accord ? Mais la justification, c'est une chose. La pratique de la justice, ça n'est une autre. On pourrait prendre une vingtaine de textes, il y en a au moins dans tous les livres du Nouveau Testament, où l'apôtre nous rappelle que nous avons été justifiés. Nous sommes justifiés. Quand le brigand sur la croix, le repentant, a dit « Souviens-toi de moi », il a été justifié instantanément. Le sang de Jésus-Christ s'est appliqué sur son âme, il a été justifié. Mais mes frères et sœurs, ne confondons pas la justification par la foi et la pratique de la justice. Si le juste tombe sept fois, et sept fois le Seigneur le relève, c'est parce que le juste, il revient à Dieu et il s'humilie. Le chrétien qui ne s'humilie pas, il ne se relèvera pas. Le juste, il pratique la justice. D'ailleurs, si vous avez gardé le texte dans Jérémie 5, il ne dit pas « si je trouve quelqu'un qui va dans les temples ». Jésus dit « s'il s'y trouve un homme qui pratique la justice ». Nous sommes vainqueurs par le sang du Seigneur. Vous le croyez ça ? C'est le sang du Seigneur qui nous donne la victoire. Donc, Dieu a ordonné certaines choses. Est-ce que nous les comprenons ? Le titre de ma prédication ce soir, il est très compliqué. « Quand la prière ne sert à rien ». Et on va prendre une dizaine de textes qui nous prouvent qu'on peut prier pour rien. À cause de cette affaire, que malgré le fait que nous sommes justifiés par le sang du Seigneur, nous ne pratiquons pas la justice. La prière fervente du juste. La Bible revient sans cesse sur cette affaire de pratiquer la justice. Vous rappelez un verset qu'on a pris dimanche sur l'Ecclésiaste ? Dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, ce verset il est excellent, parce qu'il nous montre qu'on peut tout faire sans obéir au travers d'un comportement qui ne plaît pas à Dieu. « Prends garde à ton pied », Ecclésiaste 4, 17. On le revoit, ce verset. Alors, dans ce verset 17, il est parlé du pied, et dans le verset 5, il est parlé du cœur. C'est lié, vous savez, le corps de l'homme. Vous savez, la marche spirituelle, comment on marche avec Dieu. Ecclésiaste 4, 17, prends garde à ton pied. Comment on marche avec Dieu? Parce qu'il aurait pu être écrit, normalement, il aurait dû être écrit, prends garde à ton cœur. Non, prends garde à ton pied. Comment marches-tu avec Dieu? Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Voilà, j'en ai parlé dimanche, le sacrifice des insensés, ce sont les gens qui servent Dieu mais qui n'obéissent pas. Et il y a plein de textes, d'ailleurs on va en voir quelques-uns certainement ce soir. Vous avez vu la fin du verset ? Ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne le savent pas. Il y a plein de gens. Ils chantent dans une chorale, ils jouent dans un orchestre spirituel, ils prêchent l'évangile. Ils ne savent même pas qu'ils offrent à Dieu le sacrifice des insensés pour la simple et unique raison qu'ils font les choses sans obéir. Vous le savez que l'obéissance, hein, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça. Alors j'aimerais qu'on voit quelques aspects, parce qu'on va avoir un jeûne de 3 jours, on va jeûner et on va prier les uns pour les autres. Dieu aime ça, que sa maison soit une maison de prière. Mais mes frères et sœurs, prier pour prier, ça ne sert à rien. Prier, comme on va le voir, vous allez voir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible qui indiquent les mauvaises prières. Dès le départ, on le voit. Regardez dès le départ. On pourrait se dire, par exemple, dans la Genèse au chapitre 4. Moi, ce sont des textes qui m'ont fait réfléchir, et d'ailleurs qui me permettent aujourd'hui de parler avec vous. Les prières qui ne servent à rien. Voilà le titre de ma prédication. Louis-Guy, si vous voulez mettre un titre sur le CD, il est là. Les prières qui ne servent à rien. Genèse chapitre 4, verset 26. C'est merveilleux. Regardez avec moi. Comment il est merveilleux ce verset. Voilà, beaucoup de choses se sont passées. Voilà, bon, Dieu agit et il se passe ce qu'il doit se passer. Genèse 4, verset 26, c'est la fin du verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà, c'est le premier texte sur la prière. On commence à prier. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. Dès qu'on invoque Dieu, c'est toujours intéressant, c'est intelligent. Ça prouve que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un esprit qui lui permet d'être en communion avec Dieu. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Tu te dis, c'est bien, les gens, ça va marcher. Ils commencent à prier Dieu. Au chapitre 6, 5, il y a la généalogie là, des hommes qui vont suivre. Et au chapitre 6, il y a le déluge. À quoi ça leur a servi de prier? Aux hommes? À rien. Ils ont prié pour rien. Pourquoi? Eh bien, quand Noé a commencé à bâtir l'arche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils priaient et en même temps, ils se moquaient de Dieu. Alors nous, on se rappelle que de certaines choses, parce qu'on ne tient pas compte des contextes, mais voilà une affaire terrible. Ils prient, ils commencent à prier, ça leur a servi à rien, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole et à la prédication de Noé. Donc voyez, il y a des textes comme ça. Quand on commence à pas prendre au sérieux la parole de Dieu et qu'on prie, ça sert à rien. Jésus le dit, Matthieu 6, ne le cherchez pas, Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. On peut être un hypocrite, avoir une attitude pieuse à l'église et puis être complètement en dehors, à l'extérieur. Ne priez pas comme les hypocrites. Un peu plus loin, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Qu'est-ce qu'il ajoute? Vous rappelez ce qu'il ajoute? Qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, Dieu, Jésus lui-même le dit, ne soyez pas des hypocrites, soyons vrais devant Dieu. Ne jouons pas la comédie dans la maison du Seigneur, ne jouons pas la comédie de surcroît quand on est seul. Quand on a lu tout à l'heure, ils ne savent pas qu'ils font le mal, le gars qui croit, le gars qui servirait Dieu 20 heures par jour. 20 heures par jour, vous vous rendez compte? Moi, je sers Dieu 20 heures par jour. Oh, quelle consécration! Oh, quel serviteur de Dieu! Eh oui, mais si les 4 autres heures, je vis dans le péché, je peux vous dire que c'est le sacrifice des insensés. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne leur ressemblez pas. Et vous savez, dans le monde, il y en a des hypocrites. Il y en a des hypocrites dans le monde. Ne priez pas comme les païens. Le monde est rempli de païens. Les païens, pleins de païens qui prient. Ça sert à rien. Ceux qui sont indifférents ont besoin. C'est important de prier. Est-ce que c'était bien tout à l'heure qu'on prie pour les frères et sœurs qui sont persécutés? Eh oui, ça plaît à Dieu, ça. Regardez dans Luc 18, les indifférents. Dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, est-ce qu'on peut se faire piéger? Eh oui, si c'est écrit, c'est pour qu'on fasse attention. Voyez, Luc 18. Vous savez, on va pas tout voir, mais s'il y a tant et tant et tant de textes, c'est parce qu'il faut qu'on fasse absolument attention. Dans Luc 18, voilà, c'est après toute une parabole sur la prière. Jésus enseigne qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, et que Dieu fera justice aux élus. Les élus, ce sont les gens qui sont vraiment en règle avec Dieu. Verset 9, il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient juste. Vous voyez, des gens, ils pensent qu'ils sont justes. Ils pensent qu'ils sont justifiés. Et ne faisant aucun cas des autres. Dans l'Église, il me semble qu'on doit prier les uns pour les autres. Vous êtes d'accord? On doit s'intéresser, même si on n'a pas forcément une... On ne peut pas être avenant avec tout le monde, etc. On peut être très discret. C'est pas parce qu'on est discret qu'on ne s'intéresse pas aux autres. Mais il me semble, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je prie chez moi, chacun pour soi », ça, c'est pas biblique. Priez les uns pour les autres et ne font aucun cas des autres. Vous connaissez la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un est reparti justifié et l'autre non. Et pourtant le premier, il jeûne, il prie. Vous avez vu tout ce qu'il fait? Vous vous rendez compte? Le pharisien priait ainsi à lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Alors je vais vous dire, quand on commence à se comparer aux autres, ce n'est pas bon signe. Ne vous comparez jamais à quelqu'un. Jamais. Ça ne sert à rien. Jamais. Ça doit être un état d'esprit. Ne vous comparez. Soyez vous-même. Ça ne s'appelle pas à Dieu. qui sont ravisseurs, comme s'ils connaissaient lui tout le monde. Injustes, adultères, oui, ou même comme ce publicain. Il regarde dans l'église, « Ah, moi j'ai prié à haute voix tout à l'heure. Je suis donc supérieur à celui qui n'a pas prié. Vous êtes d'accord ?» Puis j'ai prié deux fois ce soir, ou trois. Donc je suis supérieur à celui qui n'a prié qu'une fois. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Mais les hommes ont tendance, que vous le vouliez ou non, il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais prié à haute voix dans l'église. Je peux vous dire qu'ils sont d'une piété extraordinaire. Dieu regarde au cœur. Et cet homme, il s'est fait piéger. Il fait tout, il fait tout. Il fait tout ce qu'il faut faire. Il jeûne, il prie, il rend grâce. Je jeûne deux fois par semaine, plus deux fois par semaine, vous voyez. Je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce qu'il faut le faire, ça? Oui, mais le problème, c'est qu'il le fait sans obéir. Vous pouvez faire les choses dans un mauvais état d'esprit. Et il repart mal. Tandis que l'autre, il se frappe la poitrine, il est mal, il a péché, peut-être, je ne sais pas. Mais il est vrai. Vous voyez? Il se persuadait qu'il était juste. Les gens, l'illusion, moi j'appelle ça l'évangile de l'illusion. Des gens, parce qu'ils font ci, parce qu'ils font ça, parce que... Oui, il y a plein de pasteurs qui se font piéger. Vous savez comment se termine le sermon sur la montagne, hein? Vous savez comment se termine le sermon sur la montagne, à part la parabole des deux fondements? C'est Jésus qui s'adresse à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et paf, il s'adresse au pasteur. Pasteur, plusieurs me diront en ce jour-là, mais n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas imposé les mains aux malades et guéri les malades? Non mais attends Seigneur, on a fait tout ça pour toi. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez. Donc on peut servir Dieu sans obéir. C'est ça le sacrifice des insensés. Il faut veiller, et, ça, et bien sûr ces prières-là ne servent à rien. Dans Ésaïe au chapitre 1er, on l'a vu dimanche, mais c'est bien d'y revenir. C'est bien d'y revenir, parce que là, on voit dès le départ, là, pareil, combien Dieu est attristé. Je répète, ils n'ont pas abandonné le culte, ils ont abandonné Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu est mécontent vraiment. Ils n'ont pas d'intelligence, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Ésaïe chapitre 1er, on pourrait lire à partir du verset 3. Regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Ésaïe 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Pour vous dire que même Dieu fait que les animaux connaissent leur gîte, leur nid, même une hirondelle. Vous voyez, elle sait où elle doit faire nicher. Merci. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Verset 4, la moitié. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Je le répète parce que c'est important. Ils n'ont pas abandonné le culte. Voyez, quel châtiment nouveau vous infligez? Oui, bien sûr que Dieu sait très bien ce qu'il doit faire, mais il montre qu'il a tout essayé et que les gens n'écoutent pas. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ça fait mal au cœur quand même. Et quand vous lisez la suite, voyez au verset 11, « Que m'importe la multitude de vos sacrifices ?» Oui, ils offraient des sacrifices, en veux-tu, en voilà. « Je suis rassasié de l'holocauste des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous vous présentez devant moi, vous voyez que vous n'avez pas abandonné le culte. Qui vous demande de souiller mes parvis? J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, toutes ces fêtes instituées par Dieu, Dieu ne les supporte plus. » Et verset 15, « Quand vous étendez vos mains, c'est merveilleux, dans un temple où vous rentrez, tout le monde a les mains levées. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Eh bien, relisez le contexte. Et Dieu le dit, il est obligé de le dire à son peuple. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Moi, je n'ai pas envie qu'on fasse un jeûne de trois jours. Quoique si, c'est bien, on va perdre un kilo ou deux. Mais je veux dire, à part ça, je veux dire, si on ne fait pas un jeûne et prière pour faire le régime. On fait un jeûne et prière pour que Dieu réponde à la prière. Et il faut être archi droit devant Dieu. Il y a des gens, en plus, ils sont dans la superstition totale. On va jeûner, on va jeûner, on va jeûner. Dieu n'est pas obligé de nous exaucer parce qu'on jeûne. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous êtes d'accord? Bon. Tout est grâce. La solution, c'est de rechercher la justice. Regardez le verset 17. Apprenez, à faire le bien, rechercher la justice. La justice, je fais ce que Dieu me demande. Voilà. La justice, c'est ça. Ce n'est pas la justification. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande? Eh bien, je le fais. Si on va dans le prophète Amos. Amos, c'est clair en plus. Vous voyez, dans Amos chapitre 5. Ce sont des textes, mais il y en a, je ne sais pas combien il y en a de textes, qui nous montrent que Dieu ne peut pas exaucer certaines prières. Dans Amos, c'est le même principe. C'est le même principe. En plus, Dieu est très incisif dans Amos. Dans Jérémie, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, solennel. Dans Amos, c'est très incisif. Amos chapitre 4, regardez. On va d'abord lire chapitre 5, verset 21. Regardez ce que Dieu est obligé de dire de ce qu'il a institué lui-même. C'est lui qui a institué les fêtes, les assemblées, les offrandes, les actions de grâce, etc. Amos chapitre 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Regardez bien. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice, vous voyez, comme un torrent qui jamais ne tarit. Et quand je dis que c'est plus incisif, c'est que, vous voyez, au chapitre 4, verset 4, moi je n'aurais jamais osé le dire ça, c'est Dieu qui le dit. Il le dit pour les choquer, pour les interpeller, pour les arrêter. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Allez à Bethel. C'est quoi Bethel? Comment? Oui, ça veut dire la maison de Dieu, c'est un lieu de culte. Allez à Bethel et... Vous avez quoi dans votre Bible? Vous vous rendez compte? Dieu dit, mais allez-y dans votre lieu de culte. Et péchez. En plus, il continue. Allez à Gilgal, un autre lieu de culte, et qu'est-ce qu'il dit? Et péchez davantage. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, c'est Dieu qui dit ça. Oui, il dit ça pour qu'on arrête. On ne va pas dans l'église et on continue à pécher. Et il dit, ça ne sert à rien. En plus, ça va loin, parce qu'après, il dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Et pourtant, je vous dis, ils sont là, dans les lieux de culte, et ils vivent dans le péché. Et Dieu dit, je ne supporte plus ce que vous vivez dans vos églises. Des prières qui ne servent à rien. Mais ça va beaucoup plus loin. Et des textes comme ça, ça fait peur, parce que justement, la Bible en est remplie. Dieu a voulu qu'ils y soient, donc on ne peut que dire amen. Mais ça fait quand même mal au cœur. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 8. Bon, il y a des textes comme ça, je m'y suis arrêté des semaines dessus pour comprendre, pour essayer de comprendre. Ézéchiel 8. Il faut s'arrêter sur ces textes. Je les prends vite. C'est pour ça que je vous ai demandé de les noter, pour que nous les remédiions, parce que moi aussi je vais le refaire. Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Quand vous lisez ces textes, est-ce que je rêve? Ézéchiel 8, verset 3. Il étendit une forme de bain et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que j'avais vue en vision dans la vallée. La gloire de Dieu apparaissait longtemps. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, à la porte de l'autel, à l'entrée. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Dieu avait demandé que certaines choses soient dans le temple, on le sait, on ne va pas le rappeler. C'était très sobre, il ne fallait pas en rajouter. Et ils ont eu la bonne idée de mettre une idole qui s'appelait l'idole de la jalousie. Tu te dis, non mais... Et vous lirez la suite jusqu'au verset 18. Vous allez voir que ça fait peur. Une idole de la jalousie. La jalousie dans la maison du Seigneur. Tiens, est-ce que ça peut exister, la jalousie, dans la maison du Seigneur? Eh bien oui. On est tous charnels. Si on ne veille pas, on peut se faire piéger par l'orgueil, par un péché, par un autre, mais par la jalousie. On peut être jaloux, on peut envier quelqu'un. Alors après, le fait de désirer quelque chose, ce n'est pas interdit. On peut désirer certaines choses. Dieu accomplit même selon nos désirs. Mais il faut faire attention à ce que ce désir ne transforme pas en jalousie. Si Dieu a donné une jolie Mercedes à quelqu'un, eh bien, tant mieux. Est-ce que vous êtes jaloux, vous, de la réussite des gens? Si quelqu'un venait dimanche avec une Rolls Royce, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais qu'est-ce que vous diriez? Vous savez, ce matin, moi, j'avais Madame Bordeneuve au téléphone qui encore me remerciait pour tout ce que l'Église fait. C'est grâce à des gens qui ont des sous, qui donnent. Même si c'est des petites sommes qui contribuent, c'est quand même une bénédiction, quand on le fait pour Dieu de tout son cœur. Mais voyez, il faut faire attention quand on voit des... Parce que des textes comme ça, je ne sais pas vous, peut-être qu'on ne s'y arrête pas, peut-être que c'est un peu rébarbatif, parce que c'est un peu compliqué, tout ces... Mais quand même, on peut s'arrêter sur des mots qui nous interpellent. Quand on voit que les anciennes, là, dans la maison d'Israël, ils sont là, mais regardez au verset 16, mais ça fait peur. Ézéchiel 8, verset 16. Vous lirez le chapitre en entier, parce que franchement, ce chapitre, il fait mal au cœur. Hein. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient. Devant quoi ils se prosternent? Non mais tu te dis, non, mais mes frères et sœurs, c'est des pasteurs. Ils se prosternent devant le soleil. Et c'est ça, on va chercher une autre source de lumière. C'est ça, bien sûr qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les pasteurs sont, trafiquent avec l'horoscope. Et l'astronomie, ou l'astrologie plutôt. Mais mes frères et sœurs, quand on cherche une autre chaleur, une autre lumière que celle de la croix, ben c'est pareil. Quand des pasteurs sont dans l'événementiel, dans la recherche de programme, c'est ça. Ils sont prosternés devant une autre source de chaleur. La seule chaleur, elle vient du Seigneur, qui peut donner. Vous voyez, ce sont des choses sérieuses. Regardez dans Deux Rois. Et je vous dis, si avec un texte comme ça, on pourrait dire, bon, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y en a qu'un. Mais il y en a plein de textes comme ça. Deux Rois 21. Vous savez, c'est quand même... Dieu a voulu qu'on ait ces textes dans la Bible. C'est pas pour nous ennuyer. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour qu'on fasse attention, mes frères et sœurs. Ézéchiel, 2 Rois, chapitre 21. Je vous dis, si vous prenez le temps de vous arrêter à tous les textes qui dénoncent les mauvaises prières, ça fait presque peur. Mais ils sont. 2 Rois 21, Manassé, il a fait fort. Et pourtant, il s'est repenti. C'est drôle comment Dieu a rétabli cet homme. Moi, je l'aurais laissé en prison, cet homme. Mais Dieu connaissait son cœur. Il y a des gens, vous voyez, ils sont tordus vraiment, et méchants et mauvais. Manassé, c'en est un. Regardez ce qu'il a fait. On lit... on va lire à partir du verset... Du verset 3, 21 verset 3, regardez. Non, verset 2, allez. « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David, à Salomon, son fils, etc. etc. Quand vous lisez ce qu'a fait ce roi, vous comprenez pourquoi Dieu a fini par détruire le temple. Ça devient triste. Et je ne sais pas s'il faut. Mais est-ce que ça vaut la peine de lire ces textes, au fait? C'est important d'être au clair sur la prière. On ne peut pas prier n'importe comment. Et il ne faut pas. Alors, nous, les idoles, elles ne sont pas dans l'assemblée. Mais elles peuvent être dans le cœur. C'est Ézéchiel qui le dit, non? C'est dans Ézéchiel 14, je crois. Si je me trompe. Attendez, on va voir ça. Ces idoles, oui, Ézéchiel 14, versets 1 et 2. Vous savez, Dieu, il voit ce qui se passe dans les bâtiments, dans une maison. Il voit s'il y a une télé qui prend la forme d'une idole. Est-ce qu'une télé peut devenir une idole? Eh bien sûr. À partir du moment où quelque chose vous empêche de faire votre culte, c'est une idole. Un ordinateur, Facebook, etc. Tout ce qui prend la place de Dieu. Ézéchiel 14, verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles où ? Dans leur cœur. Regardez le résultat. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Et regardez la question que Dieu pose. Me laisserai-je consulter par eux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quand ils prieront pour rien. Je ne les écouterai pas. Alors quand vous regardez bien ces textes, vous comprenez une chose, c'est que le diable a toujours tout fait, tout fait, pour empêcher que la maison de l'Éternel soit une maison de prière. Pourquoi tant de gens ont du mal à prier ? Pourquoi tant de gens ont mal à venir à une réunion de prière ? Pourquoi tant de gens ont du mal à faire leur culte personnel ? Demandez à des gens, vous voulez faire des visites, visiter des mémés ? Ils vont aller faire des visites et visiter des mémés. Demandez-leur de passer du temps dans la prière. Ils ne le font pas. Parce que le diable, il travaille pour ça. Il sait très bien que le moyen de Dieu, c'est qu'une maison soit une maison de prière. Alors, ça vaut quand même la peine, parce qu'il y a encore des textes. Hein. Mais combien de gens prient pour rien ? À cause de ces choses. Il y a des gens, quelqu'un me l'a dit encore la semaine dernière, quand je prie, je ne sais pas si Dieu m'entend ou si ça s'arrête au plafond. Oui, ici, quelqu'un d'ici. Vous voyez ? Dans un désarroi total, je ne sais rien. Voilà. Je ne sais pas si je parle à Dieu, si je parle au mur. Vous voyez ? Alors quand quelqu'un a 3 mois de conversion, moi je veux bien, il y a des combats, il y a des luttes, tout ça, ça tient debout. Mais quand quelqu'un a 10 ans de conversion et qui vous dit, je ne sais pas si ma prière elle s'arrête au plafond, il y a un problème. Quand même le Seigneur a dit que quand on prierait, quand on s'enfermerait dans sa chambre et qu'on élèverait la voix, il nous verrait, il nous entendrait. Ces gens-là sont dans le doute et ça attriste le Seigneur. Que vous doutiez de moi si je vous dis, si Claudine me dit, voilà, prie pour mon fils, elle peut douter que je vais oublier peut-être. Oui ou non ? Mais c'est rare. Elle peut douter que je vais oublier. Mais ne pas faire confiance à Dieu, c'est quand même... C'est révélateur qu'on ne le connaît pas. Et les gens sont là dans le doute. Celui qui doute, qu'est-ce qu'il dit Jacques ? Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. C'est un homme irrésolu. Oui, vous avez le droit de douter de la meilleure personne que vous connaissez. Serait-elle la personne la plus fiable ? Nous sommes faillible, mais Dieu est infaillible. Dieu ne se trompe jamais. Et nous devrions nous poser des questions, mais peut-être que si mes prières ne sont pas exaucées, c'est que peut-être je ne prie pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il dit Jésus quand il nous enseigne à prier ? Quand vous prierez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Qu'est-ce que c'est la première condition ? Que ton nom soit sanctifié. Après, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais nous ne nous imaginons pas que nous allons faire la volonté de Dieu si le nom du Seigneur n'est pas sanctifié. S'il y a des idoles dans nos cœurs. Et c'est vrai, mais plusieurs m'ont dit, mais Monsieur Gaulle, je suis capable de passer 3 heures devant la télé et je ne suis pas capable de passer un quart d'heure devant mon Dieu. Des gens qui sont conscients, qui commencent à ouvrir les yeux. Alors moi, je sais qu'il y a des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut faire, etc. Mais si ça prend la place de Dieu, c'est une idole. Seigneur Jésus, je veux que ton nom soit sanctifié. Parce que moi, je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on fasse un jeûne et prière. Mais laissez-moi vous dire, je ne veux pas être négatif. Mais ça ne servira à rien si on le vit dans le péché. Si on le vit dans la désobéissance. Nous devons nous préparer. Et dire, Seigneur, je veux obéir. Un chrétien, il doit prier. Est-ce que c'est écrit « prier sans cesse » ? Oui, ça ne veut pas dire « prier 24 heures sur 24 », mais ça veut dire « je ne me relâcherai pas, je prierai jusqu'à la fin pour que mon fils se convertisse ». C'est ça que ça veut dire. Il fait des progrès ou il n'en fait pas, qu'importe, je prierai jusqu'à la fin pour lui. C'est ça que ça veut dire « prier sans cesse ». Ça ne veut pas dire être 24 heures sur 24 à genoux, c'est impossible. Un chrétien, il doit prier, il a besoin de prier. Est-ce que vous avez besoin de prier ? Si vous n'avez pas besoin de prier, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Un chrétien, il a besoin de prier. Ça vous choque ce que je vous dis ? C'est pour ça que Jésus a guéri des aveugles. Vous avez vu, c'est drôle. Il chasse les vendeurs et, comme par hasard, des aveugles s'approchent de lui. Des aveugles, il y en a dans l'église, je vous le dis. Quand quelqu'un me dit, ben moi je ne vois pas pourquoi il faut prier, monsieur Gou. Eh bien, c'est un aveugle. C'est sûr que c'est un aveugle. Parce que moi, il me semble que des besoins, il y en a quelques-uns des besoins. Oui ou non ? Non, mais des besoins, on pourrait prier. Par contre, on pourrait prier 24 heures sur 24 sans jamais prendre le même sujet. Oui ou non ? tellement il y a des besoins. Et quand quelqu'un vous dit, mais moi je ne vois pas, non, mais frère, on me le dit, monsieur, je ne vois pas, pourquoi prier? Mais frères et sœurs, il faut dire, Seigneur, mais pose tes mains sur moi, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, si je ne vois pas. Vous avez vu, avant le déluge, Dieu a permis que les hommes commencent à prier. C'est écrit, ils ont commencé à prier, ça ne servit à rien. Il y a des églises, quand on prie, ça ne sert à rien. Il y a de l'idolâtrie, il y a des jalousies, le cœur est tellement charnel, et il faut s'humilier. J'ai parlé de Manassé, parce que Manassé, bon, il a fait fort. Mais dans 2 Chroniques 33, si je ne me trompe pas, on voit ce qui s'est passé. Parce que là, on pourrait... Moi, j'en ai des notes sur les prières qui ne vont pas bien. Bon, on va arrêter. Ça suffit ou non? Ou il en faut d'autres textes? Vous en voulez d'autres? Parce que je peux vous dire que j'ai que l'embarras du choix. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais on va commencer les solutions. Allez, quand même. D'accord, ouais. Mais quand même, il faut le dire. C'est écrit dans la Bible. Il faut dire ces choses. Regardez. On va prendre 2 ou 3 textes, quand même. La prochaine fois, on verra la prière efficace. Mais là, il fallait quand même voir la prière inefficace. Regardez, alors c'est 2 Chroniques 33. Bon, c'est le même texte qu'on a lu tout à l'heure dans les Rois, par rapport à Manassé, qui n'a rien écouté. Il n'a rien écouté, donc qu'est-ce que Dieu fait? Il le met en prison. C'est ce qui se passe, on est emprisonné quand Dieu ne nous exauce plus. Vous savez, on est en prison. 2 Chroniques 33. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des reins et le menèrent à Babylone. Regardez la réaction de Manassé. Vous y êtes? Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia, comment? Profondément. Pourtant, je vous assure que lui, il était mal. Hein. Il était vraiment mal. Mais, dans sa prison, dans les chaînes, il s'humilie profondément devant le Dieu de ses pères. Ce n'était pas du cinéma. Et regardez bien, il lui adressa ses prières et l'Éternel, bon, je l'ai souligné les 3 mots qui suivent, vous vous rendez compte, se laissant fléchir, exauça ses supplications, le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, alors après, je vous assure, ça vaut le coup, il bâtit, et vous allez voir tout ce qu'il fait, vous le lirez. C'est très encourageant comment cet homme a détruit son pays. Et à partir du verset 14, il bâtit. Et au verset 19, sa prière est la manière dont Dieu l'exauça. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu miséricordieux. Quand je vous disais tout à l'heure que moi, je l'aurais laissé en prison, pour protéger l'Israël. Mais Dieu connaît les cœurs. Et même quelqu'un qui est vraiment mal tombé, Dieu peut le relever. Mais il faut faire attention d'être droit devant Dieu, d'être vrai. Vous connaissez cette parole, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Vous connaissez la suite? Sa prière même, on le lit. Il n'y en a pas assez qui le savent par cœur. Il faut le lire, tant pis. Proverbe 28. C'est des versets, mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Il y a des chrétiens, est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien n'écoute pas Dieu? Parce que le problème, il est là. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, qu'est-ce qu'il est dit? Sa prière même est une abomination. Alors, la question qui découle de ce texte est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien peut ne pas écouter Dieu? Eh oui, hélas. Vous allez me dire, mais monsieur Gau, si les gens ils vont à l'église, c'est parce qu'ils écoutent. Ils entendent. Non, mais ce n'est pas écouter pour entendre. C'est écouter pour obéir. On l'a vu l'autre jour, dans les sciences occultes, que Dieu va beaucoup plus loin. Il dit pas qu'on le trouve chez toi dans ta maison, et personne qui entende ces choses. Ah, mais les gens, ils lisent pas la parole de Dieu. Donc, après, il y a des prières qui sont une abomination, mais après, un misérable comme Manassé, est-ce qu'après, sa prière peut être entendue? Voyez, alors d'un côté, il y a des prières que Dieu n'exaucera pas parce que la personne n'écoute pas, mais si vous allez juste avant dans le psaume 102, c'est ça cet équilibre. Dans le psaume 102, vous avez l'autre côté, le côté de la bénédiction. Voyez, d'un côté, il y a des prières qui sont des abominations, et d'un côté, un homme peut être misérable et Dieu va écouter sa prière. Psaume 102, verset 18. Alors là, c'est le côté, bon, c'est le côté positif. J'entame un peu sur la prochaine fois. Psaume 102, verset 18. Il est attentif à la prière. Vous y êtes ? Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. On pourrait dire, mais c'est complètement à l'opposé de Proverbe 28. Le Proverbe 28 dit que Dieu dit que c'est une abomination, et là il dit qu'il est attentif à la prière du misérable. Oui, parce que si le gars il continue dans son péché, dans sa désobéissance, c'est une abomination devant Dieu. Tandis que s'il se repent de tout son cœur, si vraiment il dit, Seigneur, je te demande pardon, vraiment Seigneur, je suis misérable, c'est terminé tout ça. Oui, j'ai une idole dans mon cœur. Facebook, c'est devenu une idole. Je suis là pendant des heures devant Facebook. Je n'ai même pas un quart d'heure à genoux à te dire que je t'aime. Vous avez une idole. Vous l'acceptez pas, moi ça m'est égal. Mais c'est la vérité. Il a pitié du misérable. Et puis, mes frères et sœurs, la prochaine fois, on verra le côté, vraiment le côté de la prière efficace. Parce qu'il y a encore des prières qu'on pourrait voir. Je pensais à la prière du temps de Jérémie, là, du temps de Sédécias. On va quand même la lire. C'est dans Ésaïe, ça. Non, Jérémie. Il y a des prières quand même. Ça fait quand même. On se demande. Hein. Moi, je vous dis que je me demande. Hein. Jérémie 37. Moi, il y a des prières. Franchement, je me suis interrogé. Attendez que je ne me trompe pas. Non, 42, pardon. Ça y est, dans 37, mais le plus fort, c'est dans Jérémie 42. Mais vraiment, ces prières, il faut les lire. Cette malhonnêteté des croyants, c'était des croyants. Regardez, Jérémie 42. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Caréach, Zézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de ceux qui restent, car nous étions nombreux et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre, ce que nous avons à faire. » Ça c'est bien ça. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dira à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Jérémie va chercher Dieu, et au verset 16 du chapitre 44, vous avez la réponse. Non mais ça fait peur. Non mais franchement, nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Enfin, vous lisez tous les quatre chapitres, vous vous dites, je rêve. Ça s'appelle de la supercherie, ça s'appelle de la malhonnêteté. Vous savez, ça fait 33 ans que je suis pasteur. J'ai vu des dizaines, c'est sûr, de gens. Si le Seigneur fait ça, je le servirai. Si le Seigneur me guérit, je me consacrerai à lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'ait fait, ou en tout cas pas longtemps. C'est de la malhonnêteté. Si Dieu nous relève, on le sert. Si Dieu ne nous relève pas, on le sert quand même. Oui ou non? Franchement, qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais ça ne tient pas de vous. Si Dieu fait ça, je me consacrerai. Mais et s'il ne le fait pas? Moi, je vous assure, quand j'ai fait l'AVC, que j'ai entendu le docteur dire il ne va pas passer la nuit, je dis Seigneur, merci. Si tu me relèves, c'est bien. Tu ne me relèves pas, c'est très bien. Parce que ça ne plaît pas à Dieu, ce genre de truc. Le chantage, Seigneur, si tu fais ça, si tu me donnes ça, Seigneur. Je ne l'ai jamais vu. Quand on aime Dieu parce que c'est Dieu. On a le respect. Quand Jésus dit « Veillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre », mes frères et sœurs, je vous dis, il vaut mieux veiller et prier et le faire de bon cœur. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas la force. Alors, je comprends, c'est vrai que c'est dramatique que Dieu soit obligé de dire plusieurs fois dans l'histoire d'Israël « Je cherche un homme ». Et le temple était rempli. et je n'en trouve pas. Ça veut dire qu'avec un homme, une femme, Dieu peut sauver une nation. Merci Seigneur. Alors on va faire ce jeûne. Moi je suis content qu'on le fasse. Il y a des centaines de prières déjà. Non, il y en a combien, Jérémy? Il y en a combien? Une centaine? Une centaine de requêtes. Est-ce que c'est bien bon prix pour cette centaine de personnes qui ont demandé des requêtes? Mais bien sûr, on va le faire, et avec joie. Et avec joie. Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui écoute les prédications de Sainte-Agne sur Internet. Elle était toute bouleversée. Elle m'a dit, monsieur Gau, j'ai écouté une prédication, j'ai été délivré. Elle écoutait une prédication. J'ai été délivré, j'étais dans ma dépression, je prenais des antidépresseurs depuis des années. Une dame m'a dit, écoutez cette prédication, je ne sais même pas laquelle c'est pas grave. Elle a écouté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu délivre. Il guérit. Et il est plus intéressé que nous à guérir, à délivrer, à sauver et à ramener. Et les menacés, vous croyez que Dieu peut s'en occuper des menacés? Même s'il faut qu'il les enchaîne pendant un moment. S'il l'a fait pour menacer, est-ce qu'il peut le faire pour un de vos enfants? Peut-être que votre fille, s'est enchaînée dans les ténèbres, mais peut-être que c'est la plus grande bénédiction. Faites confiance à Dieu, il est tout puissant. Et lorsqu'on obéit, il combat pour nous. Alléluia! Alors, c'est vrai que je me suis appliqué, c'est vrai, à prendre à tous ces mauvais témoignages. Mais parce qu'il faut qu'on les ait. S'ils sont dans la Bible, c'est pas parce que Dieu a voulu nous rapporter le mauvais caractère de Manassé. C'est parce qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir d'idole, à ne pas avoir d'idole de la jalousie. Moi, je sais que cette idole de la jalousie, ça fait sourire. Ça fait sourire, mais quand on voit le nombre de frères qui ont quitté les églises parce qu'ils étaient jaloux, qu'on ne les utilisait pas, etc., elle y était l'idole de la jalousie. Pas sous forme matérielle, mais dans une véritable combat intérieur. Alors mes frères et sœurs, si le Seigneur nous demande de prier, demandons-lui d'aimer la prière. Il a pitié de la prière du miséricorde. Seigneur, tu vois, je n'aime pas prier. Eh bien, donne-moi d'aimer de prier. Vous savez, j'avais pris un verset pour introduire... que je n'ai pas mis, mais je vais quand même le prendre, parce que peut-être quelqu'un va être touché par ce verset. Apparemment, il n'a rien à voir, c'est dans 1 Chronique 12, 32. Je ne le cite jamais, ce verset. C'est très rare, mais ce matin, en priant, il s'est imposé à mon cœur, je ne pensais pas, mais quelqu'un en a besoin. Regardez bien ce verset, s'il est beau. 1 Chronique 12, 32. C'est un verset que je n'utilise, pour ainsi dire, jamais, dans mes prédications. Mais peut-être que quelqu'un ce soir va être interpellé par ce verset. Parce que là, quand on voit ce qu'on vient de voir, on voit l'aveuglement, les ténèbres, la désobéissance, enfin le péché sous une forme ou sous une autre. Mais dans ce contexte, regardez ce qui est écrit. 1 Chronique 12, verset 33. Regardez bien. Les fils d'Issachar, qu'est-ce qu'ils avaient? Vous y êtes? Qu'est-ce qu'ils avaient, les fils d'Issachar? Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il n'est pas beau ce verset? Voyez, vous croyez qu'ils étaient meilleurs que les autres? Moi je crois que non. Moi je crois qu'ils ont demandé à Dieu de l'intelligence. Quand Jésus dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche », il faut quand même donner quelques explications, parce que sinon on n'y tiendra pas à la brèche. Voilà, on va demander au Seigneur son intelligence. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des fils et des filles d'Issachar dans le culte? Il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir comme les fils et les filles d'Issachar? Moi, je vous avoue que je veux demander à Dieu cette intelligence. On peut demander de l'intelligence? Mais bien sûr. C'est pas pour épater les gens. C'est pour comprendre les choses. Terminons cette soirée avec cette prière, mes frères et sœurs. Celle-là, il peut l'exaucer, croyez-moi. Notre Père, notre Dieu... Nous savons qu'à certains moments, la seule prière que tu exauceras, c'est pardon. Et tu vois ceux qui ce soir dans ce lieu doivent te demander pardon. Avant de te demander quoi que ce soit d'autre. Afin que leur prière soit à nouveau exaucée. Oui, Seigneur, comme les fils d'Issachar avaient obtenu cette intelligence, nous te la demandons également. Pour avoir du discernement, pour savoir comment prier. Car tu dis que si un homme prie selon ta volonté, tu lui accordes la chose qu'il te demande. Seigneur, oui, pardon pour toutes ces églises dans ce pays. qui ont laissé rentrer tant et tant d'idoles dans les lieux de culte et dans leur cœur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour ce pays. Nous savons que tu cherches des hommes, des femmes qui pourront faire mouvoir ton bras, des hommes et des femmes pour qui la prière sera fervente, mais elle sera efficace. Seigneur, aide-nous chacun, vraiment chacun, à vraiment comprendre ce que tu veux que nous fassions dans les jours à venir, par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Nous voulons que ta volonté soit faite. Seigneur, oui, c'est notre prière de cœur. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, tout à l'heure, quand nous rentrerons, et demain, que rien de mauvais ne soit devant nos yeux, mais que ton nom soit réellement sanctifié, afin que les aveugles et les boiteux de Toulouse, les aveugles et les boiteux dans les églises, puissent venir et que ta main bénissante percée puisse à nouveau les toucher et les guérir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.